Marcel Gervais, bonjour et bienvenue à nos auditeurs pour cette émission réalisée très peu de temps après la précédente, ce qui prouve une reprise de nos activités, un rythme intensif, ce qui n'était pas arrivé depuis déjà quelques années,
oui.
N'est-ce pas ?
Noël, merci de m'inviter à ton émission.
Marcel Gervais, je vais être obligé de reprendre quelques questions que nous avons abordé la semaine dernière. Malheureusement, j'ai perdu l'enregistrement et je pense que tu ne m'en voudras pas. Nous allons devoir réaborder cette question première qui est celle de la source de ton travail. D'où vient, Marcel, cette capacité de penser extrêmement productive, sans cesse réinventée? D'où tires-tu cette puissance de travail qui te permet de nous donner, à la fois en volume et en qualité, ces constructions nouvelles, théoriques, philosophiques ou littéraires, psychanalytiques? Comment arrives-tu à travailler? Quelles sont tes méthodes, tes moyens? Voilà, nous en avons déjà parlé, mais tu vas pouvoir résumer de façon très courte, bien sûr, à cause du format de nos émissions, vise à ne surtout pas ennuyer l'auditeur.
Noël,
comment travailles-tu finalement?
Je te remercie de me permettre de reprendre ce que j'ai dit la semaine dernière, qui avait été un petit peu improvisé, un peu trop, hein, puisque j'improvise quasiment tout le temps, évidemment. Mais ce n'est pas une improvisation dans du vide. Cette improvisation, c'est ce travail de création, de surgissement de la pensée, se fait dans un contexte qui oblige à réinventer sans cesse les concepts que je parcours nuitamment, journellement. Bref, quelle est ma méthode? Comme je te l'ai dit donc, c'est simple, j'utilise la marche. La marche, c'est une activité physique, n'est-ce pas? Et aussi intellectuelle, et on pourrait dire spirituelle, bien. Ce que je veux dire, c'est que la marche dépasse toutes les autres activités physiques, sans être pour autant l'automatisme qu'on lui suppose. Que se passe-t-il? Je déplace mon corps. Plutôt, mon corps se déplace. Ou plutôt, quelque chose opère un mouvement au travers de mon corps. Quand j'observe et vis en même temps ce phénomène, mon cerveau est soudain éveillé, réactivé, oxygéné. Et je me mets à travailler, comme on le devine, dans une complexité extraordinaire, puisque se condense dans ce déplacement, ce mouvement, cette intériorisation du mouvement et cette excitation mentale, une dizaine d'axes de pensée. De pensée au sens très large, hein, non limité à quelque chose qui serait cérébral ou à quelque chose qui serait purement intellectuel. Bref, il y a 10 axes que je parcours simultanément. Le premier est celui collé au corps, qui m'informe du temps. Le temps qui apparaît au travers du déplacement. Le fait que je me déplace d'un point à un autre implique le temps. Si je suis sur un parcours déjà connu, je contrôle, vérifie, compare avec le temps mis auparavant. Donc je me situe dans un temps, un nouveau temps, qui à la fois fait référence au passé, me donne des indications sur le présent bien sûr, mais aussi le futur me permet de prévoir quel temps je mettrai la fois suivante pour aller d'un point à un autre. Et comment ce temps est en rapport avec le déroulement de la pensée, le chemin de la pensée, le chemin du corps, a un lien avec le chemin de la pensée, parfois un lien qui peut se déliter, qui peut s'étirer. Sur de longs trajets, il arrive que nous ne pensons guère, tandis que parfois, un seul pas suffit à faire naître une idée totalement nouvelle, révolutionnaire, de nature à permettre l'écriture d'un ouvrage entier, d'une série d'ouvrages, d'une collection même.
Marcel, très bien, tu as repris déjà plusieurs points, mais de façon un petit peu brouillonne, je trouve. La semaine dernière, tu avais surexpliqué quels étaient ces axes.
Oui, Noël, tu as raison, j'étais plus clair il y a 8 jours. Et donc, il faudrait que je définisse très vite ces axes. Donc, il y a l'axe du corps. Le corps qui me permet de connaître, au travers de ses douleurs, à la fois une réalité physique, avec ses dimensions anatomiques, physiologiques, le pied, les douleurs du pied, des articulations, le tarse, métatarse, la cheville, les genoux, le genou et ses troubles de cartilage, l'usure des cartilages, les ménisques entamés, il y a la hanche, les raideurs de hanche, il y a dans les membres inférieurs douleurs musculaires, les courbatures, hein. La marche de la veille, hein, laisse une trace sur le jour suivant et la semaine qui va arriver aussi également. Il y a les problèmes du dos, Les lombaires, bien sûr, toujours souffrantes, soumises au poids à la fois du corps et des pensées, car les pensées pèsent, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y a les dorsales qui sont sollicitées terriblement par la respiration, le manque de respiration également, les tensions, le stress de la vie moderne. Il y a la tête, les maux de tête, les troubles visuels, les douleurs temporales, frontales, occipitales. Il y a les douleurs des épaules lorsque nous avons jardiné sans préparation. Il y a le coude, il y a les poignets, etc. Les ampoules des mains quand le travail manuel, absolument nécessaire pour l'intellectuel, n'est-ce pas, laisse sa trace, sa marque, qui est à la fois un bonheur et une douleur. Bref, il y a 1000 sensations, 1000 douleurs qui nous permettent de nous élever, d'élever notre esprit. Ça, c'est l'axe du corps immédiat, mais cet axe du corps immédiat forcément nous amène à une réflexion, parfois médicale, parfois kinésithérapique, parfois plus centrée sur les sens, le sens tactile, l'ouïe, la vision, etc. Enfin, donc ce premier axe corporel nous amène à la science, en fait, la science naturelle, car toute la nature se retrouve en nous et nous pouvons comprendre le monde au travers de la complexité de notre monde intérieur. Et voilà pour le premier axe, mais j'ai laissé pas mal de choses de côté, volontairement, délibérément, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a un deuxième axe qui est celui de la vue, et celui-là est considérable, on en a parlé la semaine dernière, il est à la fois la vision des choses immédiates, celles qui serait comme filmé, on pourrait dire, si notre œil était une caméra, mais aussi la vision secondaire, celle qui permet d'accéder derrière le petit bourdon que je vois là, derrière le groseillier, derrière la marguerite. Et donc, cette vue me permet d'accéder à plusieurs niveaux, et aussi, surtout, me pose la question de l'image, résonnant avec l'imagerie intérieure, c'est-à-dire à la fois les souvenirs, les images du passé, les images à venir, puisqu'elle m'interroge sur ce que je vais voir plus tard, sur ce que j'imagine. L'imagination a besoin de représentations plastiques, n'est-ce pas? Et cette vue m'amène à me poser la question sur ce qu'on voit, la relativité de la vue, etc. Et je passe au troisième axe, le troisième axe.
Merci Marcel, il est temps de finir, donc encore un mot sur le troisième axe. S'il te plaît.
Ce troisième axe est bien sûr celui de la vie que nous dirons intérieure. La vie intérieure, c'est-à-dire non seulement celle qui a résonné avec nos deux premiers axes, mais celle qui est la source ultime de la création, celle qui est faite de la pensée abstraite, celle qui permet de concevoir le monde non plus au travers d'une pensée inspirée de près par les sens, mais par un mouvement qui serait comme la création d'une sorte d'encyclopédie, d'une... Bref, c'est celle qui amène à la synthèse totale, aux délires les plus fous, comme aux illuminations les plus grandioses. Et celle-là, pendant mes marches, cette source de vie intérieure connaît des éclatements de lumière, des moments cathartiques, n'est-ce pas, où se révèlent soudain dans leurs intégralités qu'il faut ensuite développer, détailler, mes systèmes de pensée, ceux qui ont été présentés dans mes très nombreux ouvrages, et ceci depuis des dizaines d'années, voilà Noël, un résumé extrêmement bref et bien sûr elliptique de ma méthode de travail, du moyen qui me permet de réaliser cette œuvre considérable que vous connaissez.
Merci Marcel, je trouve que tu as été très précis.